Vocation Entrepreneur, c'est votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 11, j'ai invité Nour Talek, coach de dirigeants, directrice de son propre cabinet en ressources humaines. Elle est spécialisée dans le coaching des entreprises lifestyle. Elle va nous expliquer comment gérer l'humain pour avoir un leadership impactant.
Je pense que c'est une histoire de responsabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de faire de l'argent. Et d'être pleinement responsable de cet acte-là qu'ils délèguent à un employeur. Et en contrepartie de cette délégation de responsabilité, bah, il va y avoir le prix du confort. Voilà. Mais après, savoir que ton temps appartient à quelqu'un, voilà, c'est un autre concept aussi.
Dans cette interview, vous allez découvrir que pour être un leader apprécié par vos équipes, vous devez avant tout être capable d'inspirer les gens vers une vision commune, plus grande que les intérêts individuels. Vous allez découvrir le parcours de cet entrepreneur hors pair. Après avoir travaillé dans une multinationale en tant que manager en ressources humaines, elle intègre une ONG avec une gestion d'équipe de plus en plus grande. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nour Talek a une expérience très solide en management dans un cadre d'entreprise. Je l'ai invitée pour nous donner sa version du leadership, les qualités indispensables pour être un bon leader. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est son discours sans filtre. Aucune rétention d'informations, et ça, j'aime beaucoup. Vous allez découvrir que le leadership n'a rien à voir avec cette espèce d'autoritarisme improvisé. C'est beaucoup plus profond que ça. Et Nour a clairement défini les conditions d'un bon leader, un leader au clair avec lui-même et avec les autres. Nour est également maman. Elle a su jongler entre ses différentes responsabilités sans s'asseoir sur son ambition professionnelle. Aujourd'hui, les clients viennent à elle et elle m'a avoué qu'elle coachait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vous allez découvrir comment le milieu familial aisé dans lequel elle a grandi lui a permis d'avoir confiance en elle, mais qu'elle a dû régler son rapport à l'argent pour passer au niveau supérieur dans son business. Vous êtes prête à écouter ce témoignage rempli de pragmatisme et de maturité ? C'est parti pour 45 minutes d'enseignement. Nour, bonjour.
Bonjour Hayette.
Bienvenue sur Vocation Entrepreneur.
Merci de m'avoir invitée, c'est un grand plaisir de partager un moment comme ça.
Eh bien, merci à toi. Nour, tu es coach de dirigeants, dirigeantes, de cadres et d'entrepreneurs. Et tu as un parcours professionnel très intéressant. Tu commences par travailler dans les ressources humaines, donc dans le secteur du textile, pendant 5 ans. Et puis, tu intègres les ressources humaines d'une ONG parce que tu étais en quête de plus de sens dans ta vie professionnelle et tu y restes jusqu'en 2012. Et en 2018, tu te lances à ton compte en tant que coach de dirigeante et d'entreprise. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre 2012 et 2018. Donc là, ça fait un peu entretien RH, hein, tu sais. Parce que comme toutes les mamans, on a des trous dans le CV. Et quand on arrive devant un cabinet RH, on cherche plein de belles histoires à raconter pour justifier cette absence du monde du travail. Alors, je ne suis pas RH, hein, mais je sais que pour l'avoir moi-même vécu, ces trous-là dans le CV, ce sont des moments pleins de remise en question. Et c'est aussi le moment parfois de la maternité. Du coup, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, donc en 2018, tu t'es dit « voilà, je vais devenir coach ».
Alors, déjà pour l'espace qu'il y a entre 2012 et 2018, c'est que en effet, moi j'avais consacré la première partie de ma vie vraiment sous l'angle professionnel. Donc je m'étais vraiment consacrée beaucoup à mon travail. Et puis, eh bien, en 2012, je me suis mariée. Et bien après, sont venues les années de maternité. Et c'est là où je me suis un petit peu éloignée. Du cadre RH et du monde un petit peu de l'entreprise. Et quand je m'y suis remise, c'était une fois que cette vague-là était passée. Et ce qui m'avait motivée aussi, c'est que je n'envisageais plus de recommencer dans une entreprise. J'avais vraiment besoin d'être à mon compte. J'avais déjà fait des petites choses à mon compte pendant cette période de maternité, etc. Mais je n'envisageais plus de rejoindre le monde de l'entreprise autre qu'à mon compte.
D'accord.
Et le coaching, ça s'est imposé un petit peu naturellement à moi. Déjà, ça a été une question d'opportunité aussi. de personnes qui sont...
Quel genre d'opportunités ?
Ben, en fait, des personnes avec qui j'avais travaillé lorsque j'étais cadre RH m'ont mis en contact avec d'autres personnes qui ressentaient le besoin d'être coachées, en fait. Donc, c'était des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais travaillé, et voilà, qui connaissaient ma vision des choses. Et donc, connaissant d'autres personnes qui avaient ces besoins-là, bah, nous ont mis en contact. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement. Et je dois dire que moi, j'étais contente d'être vers cette mission-là qui prend en compte... à la fois, bah, moi, mon expertise aussi au niveau du management, des organisations, et en même temps, qui prend en compte la psychologie de la personne aussi, et vraiment bah, de l'amener vers ses objectifs personnels, de réalisation personnelle dans sa démarche d'entrepreneuriat.
Alors, je sais que dans les études de ressources humaines, il y a une partie psychologie, même une grande partie psychologie. Qu'est-ce qui t'a en fait permis, grâce à ton expérience dans les ressources humaines, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir être, je dirais, facilement recommandé par les autres en fait ? C'était quoi tes points forts là-dedans ?
Alors moi, dans mon parcours RH, j'ai eu un parcours qui était déjà très orienté sur le management des personnes. Moi, je manage des personnes depuis que j'ai 23 ans. Donc forcément, c'est-à-dire en termes de pratique, même professionnelle, on est obligé de prendre en compte les attitudes des personnes. Après, c'est pas forcément une connaissance psychologique parce qu'on s'invite pas non plus dans le cerveau des gens mais, quand on est au travail. Mais voilà, il y a quand même à apprendre à manager une équipe, connaître les ressorts un petit peu des uns et des autres. Et puis, moi, j'ai toujours cet attrait pour la psychologie, la compréhension des motivations des uns, des autres. Et j'avais également complété mon parcours avec un petit cursus en psycho pour mêler un petit peu ça. Et c'est vrai que même quand j'avais rejoint le monde de l'entreprise au départ, la démarche de travailler avec l'humain m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que j'avais pris l'option des ressources humaines, que j'étais partie dedans, parce que le but, c'était aussi de travailler sous l'angle côté plus humaine que ressources. Après, oui. Ça, c'est dans les débuts, hein, parce qu'après, il faut être pragmatique. Le monde de l'entreprise, la gestion des ressources humaines, c'est pas de l'accompagnement personnel. Mais voilà, ça m'a toujours intéressée, et puis travailler avec les... comprendre toutes les richesses des diversités, etc. Je trouvais ça très intéressant.
Alors, on va faire un petit retour dans ton enfance. Je sais que tu as grandi dans un milieu avec des parents aisés. Est-ce que tu peux nous parler des leçons déterminantes dans ta vie d'enfant qui ont forgé aujourd'hui ton caractère de coach ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu une enfance qui était très aisée. Et... Par contre, là où je vais revenir, c'est que mon enfance, elle a été très facile. Mon enfance, D'accord. elle a été très facile. J'ai été dans un milieu qui était qui était protégé. J'ai eu une vraie enfance. J'avais pas de préoccupations majeures. Par contre, les grandes leçons de mon enfance, c'est que moi, mes parents n'avaient pas une enfance facile. Mes deux parents ont eu des épreuves de vie dans leur enfance qui étaient vraiment importantes. Et bien qu'ils aient réussi à atteindre un niveau social qui était élevé et très aisé, ils avaient gardé en fait la richesse de leur parcours en termes d'enseignement. C'est-à-dire que nous, autant on était élevés dans un milieu aisé, autant on a quand même dû faire, avec mon frère et ma sœur, on a quand même dû faire des jobs d'été. Alors qu'on n'en avait pas forcément besoin, mais c'était une obligation familiale. Et c'était à chaque fois dans des choses qui étaient un petit peu rudes. Donc, on a travaillé. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13, 14 ans pendant l'été. Hein, c'était juste pendant quelques semaines où on était dans les champs. Voilà, c'était très physique. Et après, même quand on a eu 18 ans aussi, c'était nos parents nous forçaient à aller à l'usine pendant les mois d'été.
Mais l'usine, ça fait partie de tout. Ça fait partie de tous les parcours. Même les ingénieurs doivent, pour valider leur cursus, doit faire un cursus usine. Ça, c'est obligatoire.
Ouais, mais nous, on n'était pas en mode ingénieur, tu vois. Nos parents, ils auraient pu, hein, ils auraient pu essayer de nous gratter un poste tranquille, mais c'était pas l'ambiance de l'expérience. Eux, ils voulaient mener l'expérience, ils voulaient nous faire connaître la vraie vie, en fait. Et c'est quoi la valeur d'une heure de travail? Parce que quand tu grandis dans un milieu où tu n'as jamais à te poser la question de l'argent, parce que c'est vraiment le cas, tu peux ne pas connaître sa valeur, même si tu respectes, tu fais pas n'importe quoi avec, mais tu peux ne pas connaître la valeur, à quel point ça peut être dur de le gagner, et puis que tout le monde n'est pas dans cette facilité que tu connais à ce moment-là. Donc ça, franchement, ça a été, et franchement, je râlais, c'était intérieurement, bon, voilà quoi, j'aurais voulu faire d'autres choses et tout. Et j'ai essayé de proposer d'autres jobs d'été, mais c'était pas possible. Donc,
et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, on sait très bien que quand on est dans un milieu aisé, alors soit on est rentier, soit voilà, ou ce sont des parents qui travaillent beaucoup. Est-ce que tu as vécu, toi, cette absence des parents?
Non.
Qui travaillaient énormément?
Non, parce que maman était professeure, hein, et donc du coup pour elle était, enfin on l'a toujours connue, c'est elle qui nous amenait à l'école, c'est elle qui venait nous chercher à l'école. Oui. Donc on n'a pas, enfin vraiment maman était très très disponible. Maman était très très disponible, et mon père lui partait souvent à l'étranger. Lui aussi, pareil, il avait, c'est un mode de vie, ils n'avaient pas une vie de bureau, en fait. Oui. Donc, du coup, lui, il pouvait partir pendant 3-4 mois, et puis après, il rentrait à la maison pendant 1-2 mois. Oui. Et ce qui fait que, lui aussi, finalement, ok, il avait des périodes d'absence, mais quand il était là, il était présent aussi, donc, c'était pas des, on avait quand même du temps familial. On avait quand même du temps familial, oui. Et j'ai pas souffert de l'absence de mes parents.
Ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, quand on construit souvent, en fait, son modèle, son propre modèle sur le modèle ou le contre-modèle de ses parents. Donc, toi, le modèle de tes parents, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré vraiment et tu t'es dit, mais c'est ce que je vais faire plus tard, ou c'est comme ça que je veux faire, ou...
Énormément, parce que justement, comme il y avait cette disponibilité familiale, j'ai jamais pu envisager d'être maman sans pouvoir m'occuper de mes enfants.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en devenant maman que pour moi, c'était quelque chose qui était inconcevable. Et je dis pas que les personnes qui ont des horaires de bureau, etc., ont tort, et que la seule façon de vivre la maternité, c'est comme moi je l'exprime. Mais moi, j'avais vraiment ce besoin, c'était vraiment viscéral, justement, bah tu vois, de pouvoir amener mes enfants à l'école le matin,
et d'aller les chercher. C'est partagé par beaucoup de mamans, ça. Hein.
Et d'aller les chercher le soir à 16h30. Ouais, pour moi, c'est fondamental. Et ça reste vraiment, c'est vraiment très important, parce que moi je sais la richesse que ça a été d'avoir une maman disponible pour faire des sorties, aller au musée, se promener. Voilà, il y a toute l'éducation aussi qui se fait autour. Il n'y a pas que.
Oui, c'est ça, oui. Et puis des expériences qui s'impriment et qui font que tu peux dire j'ai eu une enfance. Tu sais qu'il y a pas beaucoup de monde, hein, qui est capable de dire j'ai eu une enfance. Une enfance heureuse.
Ah, moi, j'ai une enfance heureuse. J'ai une enfance heureuse.
Ouais, c'est quelque chose de... Tu sais, quand je pose la question, c'est quelque chose... C'est très cash, hein. C'est oui, j'ai eu une enfance heureuse, ou non, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Donc, l'impression générale qui en ressort, c'est vraiment une somme, en fait, des expériences qu'on a pu vivre, en fait. Alors, Nour, si je te dis... Donc, je vais te citer une phrase de Napoléon Bonaparte. Un leader, c'est un dealer d'espoir. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, dans le fond, je suis assez d'accord. Après, sur le mot dealer, si tu veux, il y a maintenant une appréciation.
Une connotation.
Une connotation dans laquelle je me reconnais pas. Et puis, tu sais, ouais. C'est un terme dans lequel je me reconnais pas. Par contre, oui, sur la notion d'être capable de transmettre de communiquer en fait son propre espoir, ses propres objectifs, et de les faire se joindre aux objectifs des personnes avec qui on travaille, oui, ça je suis d'accord.
Et tu travailles là-dessus, toi, sur le leadership, avec les personnes que tu coaches?
Oui, beaucoup.
Et du coup, pour toi, quelles sont les qualités d'un vrai leader, en fait?
Alors, pour moi, un vrai leader, ça va être quelqu'un qui va être... donc, justement, qui a cette capacité d'avoir une vision et surtout, qui est capable de la transmettre aux personnes avec qui il travaille. C'est-à-dire qu'il la transmet d'une manière qui vraiment inspire les personnes qui sont autour de lui.
C'est quelqu'un d'inspirant.
C'est quelqu'un d'inspirant, mais tu sais, maintenant, tout le monde dit ça, ouais, il faut être inspirant, etc.
Ouais.
Après, ce n'est pas un gourou non plus. C'est pas un gourou non plus, mais tu vois, le leader, c'est celui qui sait avoir... en fait, il a un objectif qui est tellement clair, il a une vision qui est tellement claire que quand il la formule, tous ceux qui sont autour de lui reconnaissent le bien fondé de cette vision et veulent œuvrer à ça.
Mais c'est difficilement palpable quand même, parce que tu vois, quand on dit amener une équipe vers une vision qui est commune, j'ai du mal à définir ça. Concrètement, comment ça se passe? Tu vois, dans la tête d'un leader, comment ça se passe et comment il se dit? Alors, soit c'est naturel. Il y a des gens qui sont des leaders naturellement. Ils n'ont pas à se poser cette question du décortiquage, je dirais, psychologique. Mais moi, comme j'aimerais expliquer un peu aux auditrices, je me demande comment on peut définir ça, parce que c'est très vague, cette capacité à être inspirant.
Ben, je pense que, tu vois, comme tu disais, tu as des gens qui font cette démarche, cette construction assez naturellement, mais je pense que le principe est toujours le même, en fait. C'est que, déjà, il faut être au clair avec soi.
Ouais.
Souvent, tu vas voir des personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment oser formuler leurs désirs, les désirs qu'elles placent dedans.
D'accord.
Et donc, du coup, en fait, elles se lancent un petit peu faire pour faire. Oui, et là, du coup, oui, rien à communiquer, en fait.
Oui.
Si c'est faire pour faire, t'as rien à communiquer. Juste faire, ou tu vas avoir des gens qui vont être sur le même mode que toi, faire pour faire. Toi, après, quand t'as une vision... de là où tu veux emmener ton projet, par exemple, tu te dis, bah, cette année, moi, je veux faire un chiffre d'affaires de 200 000 euros et parce que, voilà, j'ai telle chose. Donc ça, ta vision personnelle, tu n'es pas obligé de la transmettre, mais par exemple, pour ton entreprise ou ton projet d'entrepreneuriat, tu veux dire, parce que je veux impacter de telle ou telle façon mes clients. Si t'es clair avec ça et que tu en parles facilement donc sur la vision que t'as par rapport à tes clients, aux gens avec qui tu travailles, et que tu arrives aussi à faire comprendre où est leur intérêt dedans, parce que on est là pour travailler aussi, hein. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'intérêt, ça sert à rien. Si te lancer dans l'entrepreneuriat en mode je gratte des compétences à moindre coût, franchement, ça mènera jamais loin. Mais si tu dis, ouais, voilà, et ben, voilà, je connais 2-3 personnes de talent qui sont autour de moi, je sens qu'elles ont un talent, connu ou pas encore reconnu. Hein. Et tu discutes de cette vision avec elles, et tu leur dis, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est apporter ça à des clients. Et toi, je pense que tu as un talent pour être sur tel aspect, je pense que c'est bien. Toi aussi, et voilà où sont nos intérêts communs. Et chacun va avoir des intérêts communs, chacun va avoir des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers, ça ne regarde pas. Mais s'il y a un intérêt commun à le faire, forcément... il y aura une bonne vibe dedans, il y aura une bonne énergie dedans et ça va se faire.
C'est une espèce d'alchimie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que c'est tellement difficile hein, de regrouper des gens autour d'une même cause, parce que il faut quand même que les intérêts particuliers convergent avec cet intérêt commun.
Ben, tu vois, c'est là où moi je vois que la différence entre ceux qui sont d'excellents managers, d'excellents leaders et d'autres qui sont des petits chefs, on va dire, c'est que tu vois, ceux qui sont d'excellents managers ou d'excellents leaders sont des personnes qui savent reconnaître les talents des gens qui sont autour d'eux et qui sont capables de s'ouvrir à ces talents-là.
C'est ça, donc ils ont une capacité quand même de profilage un peu psychologique, quoi.
Ouais, déjà au moins ils écoutent et ils s'intéressent. Ils s'intéressent vraiment, non pas à ce qu'ils vont aller chercher dans la personne, mais ce que la personne, elle a leur apporté.
D'accord.
Des fois, tu ne vas pas tout prendre du profil de la personne parce que, voilà, ta mission, la mission pour laquelle tu as besoin, tu vas pas tout prendre. Mais cette personne-là, c'est un tout. Tu peux pas, t'es pas au marché. Moi, je pense que la grosse erreur, c'est se considérer au marché et on prend juste telle compétence. Mais en fait, non, on travaille avec des personnes. Et quand les gens se sont considérés véritablement dans ce qu'ils savent faire, et que même si on n'utilise pas l'ampleur de leur talent, mais qu'on dit, bah ouais, je sais que tu sais faire ça, ça, ça. Franchement, je trouve ça super intéressant. Moi, maintenant, j'ai une mission qui porte uniquement sur tel aspect des choses. Et franchement, je pense que tu as le talent pour faire ça et j'aimerais vraiment que tu nous emmènes loin avec ça. Et ben voilà, la personne, elle se sent pleinement considérée. Et 99% du temps, les gens, ils mettent tout leur cœur et vraiment toutes leurs compétences à faire ça. Ils mettent vraiment, tu sais, comme on dit l'expression, du cœur à l'ouvrage. Et c'est ça qui fait que ça a marché.
Mais tu vois, ça, dans une entreprise à taille humaine, j'imagine bien ce que ça peut être, parce que les échanges se font dans la proximité et on a le temps d'échanger. Mais moi, j'ai vraiment du mal à croire qu'une multinationale, tu vois, genre, tu sais, une multinationale du CAC 40, puisse mettre ça en place à une grande, grande, grande échelle. Même si... Alors, je te parle de ça parce que j'étais dans une grande je travaillais en tant que salarié dans une grande multinationale et on met en place un espèce d'esprit corporate, là. Et puis, il faut que tu y adhères, quoi. Tu vois, donc, tu as la RH qui te recrute avec ton responsable de service et tout. Et puis, cette vision, eh ben, en fait, on te force un peu à l'avoir pour faire partie de l'équipe. Donc, toi, tu fais semblant jusqu'au jour où tu te rends compte, ben non, ça ne me correspond pas. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est possible dans des petites structures, mais pas dans des très grandes. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ben, moi j'ai une position différente. Je pense que c'est une histoire de personne. C'est une histoire de personne et que dans les petites structures aussi, des fois il va y avoir des grosses lacunes en termes de management, etc. Et que ça peut vraiment causer des gros problèmes. Tout comme dans les multinationales. Moi, j'ai commencé en multinationale aussi. Et pour moi, c'est une expérience positive. Et je pense parce que j'ai eu des super managers. Et ils étaient super managers aussi parce que le groupe mettait un point d'orgue à ce que voilà il y ait cet esprit là et ce qui fait que voilà quand toi N+1 il est super, bah toi quand t'es le N+1 de quelqu'un, bah t'as été inspiré par ses comportements, tu t'es imprégné de ses comportements. Oui, oui. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment une histoire de personne, parce que j'ai aussi connu des cauchemars en multinationale où tu voyais des collègues, je me disais mais voilà, oh comment j'aimerais trop être dans son équipe, parce que c'est juste pas possible, le manque de considération pour les gens, le manque voilà. Mais ouais, c'était je pense que ça tient beaucoup à une histoire de personne, et tu vas avoir des environnements qui favorisent un bon aspect, t'as des environnements qui favorisent un mauvais aspect.
Oui, c'est ça, c'est sûr.
Mais après, pour le corporate, on va dire, c'est un peu une norme, tu vois, maintenant, c'est un peu une norme. Et je pense que, tu sais, c'est quand on essaie de mettre en procédure des mots, parce qu'on essaie de faire caler les comportements. Mais là aussi, on ne s'y prend pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut d'abord cultiver la bonne ambiance autour de ça pour qu'ensuite, tu vois, quand les mots viennent sur l'ambiance corporate, que ce soit naturel. Chacun dit, ah bah ouais, c'est vrai, je l'ai constaté dans mon équipe.
Oui, c'est ça, ça vient de l'intérieur finalement, même dans le recrutement. Oui. Tu vas dans le recrutement, tu dois prendre vraiment des personnes, et ça c'est difficile de trouver, tu dois prendre vraiment des personnes qui correspondent à ta vision des choses, mais on sait très bien que dans le monde réel, bah, parfois tu ne trouves pas et tu dois prendre ce qu'il y a, et puis c'est tout, parce que le profil que tu voulais à ce moment-là, bah, il n'existe pas. Donc, bah alors ça, tu dois compléter avec l'existant, non ?
Alors, oui, mais parce que quand on se lance dans un recrutement, on se dit, ouais, je veux tel ou tel type. Enfin, voilà, on est calé sur quelque chose, mais 95% du temps, ça n'existe pas, ce profil-là. Ce qu'on cherche, ça n'existe pas. Maintenant, il faut voir avec les profils qui viennent, est-ce qu'ils ont les compétences clés pour pouvoir... être fit avec le besoin.
Oui, oui, oui.
Tout donc, à fait. Parce qu'après, il faut aussi pouvoir développer les gens. Il ne faut pas tout le temps attendre que...
Oui, c'est ça. Que ça soit tout prêt sur un plateau.
Celui qui t'apporte, Ça, c'est vraiment le truc que j'entends beaucoup. Ouais, mais attends, je le paye, il faut qu'il apporte. Même si c'est un, par exemple, un infopreneur qui prend un freelance, hein. Il faut qu'il apporte, il est payé pour ça, etc. Ouais, mais collabore aussi avec lui. Collabore. Peut-être qu'il y a une certaine partie que tu n'as pas su bien communiquer. Peut-être que toi-même, tu as des failles, tu t'es pas encore bien regardé pour savoir que tu n'arrives pas à bien transmettre ce que tu souhaites. Donc, c'est vrai que le recrutement, c'est pas une évidence. C'est un vrai boulot. Donc, faut vraiment le faire. Faut prendre son temps des fois aussi. Et puis, ou alors, si t'as pas le temps, faut accepter que la presta que ce soit en dessous de ce que tu attendais.
Mais justement, ça rejoint le fait de coacher les gens. Parce que quand on coache les gens, ça, c'est un travail des plus difficiles, hein. Ça implique de cerner donc le personnage, de cerner ses besoins, de visualiser là où tu veux l'emmener. Et je sais que souvent, les clients demandent un changement, mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est un résultat, sans prendre en considération tout ce qu'il faut changer en amont pour obtenir ce résultat. Et comment tu fais, toi, pour faire comprendre à tes clients qu'un résultat, il ne peut pas s'obtenir sans un changement sur eux-mêmes, en fait?
Moi, déjà, la première étape, c'est que tu vois, moi, je les amène pas où moi, je veux les amener. Moi, je les amène là où eux, ils veulent aller, mais ils n'ont pas encore trouvé les moyens pour y parvenir.
Oui.
Du coup, d'emblée, je joue dans leur camp. Je joue pour leur réussite. Et c'est vrai qu'il y a une phase, forcément, où on fait comprendre que, et même ça vient assez naturellement, mais qu'on peut pas, c'est pas tout le temps en faisant les mêmes choses qu'on va continuer à avoir des résultats différents. C'est impossible. Il y a un moment, il faut changer des choses, il faut avoir une capacité de se remettre en question. Après, je pense que quand c'est fait avec bienveillance, en étant véridique, mais sans brutaliser la personne dans ce qu'elle est, parce que là, ça commence à toucher à des choses de la personnalité, tu vois.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, il faut avoir une démarche où tu es véridique dans ce que tu dis, et en même temps, sans brutaliser la personne, et surtout en lui donnant les moyens, et en lui ouvrant la fenêtre, sur comment faire différemment. Parce que sinon, si tu dis juste à la personne la liste des choses qui vont pas, mais que tu lui donnes aucun moyen pour faire autrement, ça sert à rien, quoi. T'as juste été négatif envers une personne. Le coach, c'est justement celui qui va voir le positif, même dans ce qui a l'air de manquer.
Et alors, justement, est-ce que t'as déjà, entre guillemets, raté un coaching? Tu étais en face d'un mur et c'était entre cette personne et toi, ça passait pas.
Franchement, non, je me suis pas trouvée dans cette situation. Parce que la plupart des personnes qui viennent... En fait, ça aurait pu arriver peut-être dans ma vie professionnelle avant, tu vois, quand j'étais en entreprise, etc., où l'accompagnement, il peut être imposé à une personne.
Oui.
Mais là, quand toi, t'es coach, ce sont les gens qui vont venir vers toi aussi. Et donc, eux, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose en eux qui fait que ça ne fonctionne pas, que le projet n'avance pas ou qu'il avance mal et que les gens sont crevés, épuisés. Ils sont en train de perdre le goût de leur projet, mais ils n'arrivent pas à voir tout seuls comment faire différemment. Donc, oui, en général, ils sont déjà dans une démarche de remise en question. Mmh. Et ils cherchent justement des moyens de faire différemment.
D'accord. Et du coup, toi, tu ramènes en fait ce regard un peu extérieur, objectif, je dirais, parce que quand on est impliqué, c'est difficile de prendre du recul. Tu ramènes, toi, ce regard objectif, quoi. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent, en fait, de changer ? De quoi on se plaint, en fait, le plus souvent ?
Le plus souvent, donc, il y a deux situations majeures. Une personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne sait pas du tout par quel bout commencer.
D'accord.
Qui sait pas comment, qui a vraiment le désir de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas comment faire. Et la personne qui s'est déjà lancée depuis récemment ou plus tardivement, mais qui connaît une première phase de croissance et qui est dépassée par ça et qui est en souffrance par rapport à cette croissance, qui normalement c'est quelque chose de positif, mais là ça se passe mal et c'est très dur, les heures s'alignent, les conflits de personnes s'il y a une collaboration éclatent. Et il y a une tension hyper forte et ça vient en dégoûter du projet. Donc, c'est les deux situations où j'interviens le plus.
Et du coup, est-ce que toi, quand tu interviens, parce que là, c'est vraiment, je dirais, de l'analyse de la situation, est-ce que tu constates chez tes clients un problème de relation avec l'argent ?
Ça arrive, pas chez tous, mais ça arrive surtout pour ceux qui sont en train de lancer leur projet. Il y a de tout, en fait. Ouais, à y réfléchir, il y a de tout.
C'est quoi comme type de problème, en fait ? Qu'est-ce qui ressort
Alors, il y a des personnes qui vont pas se sentir légitimes, aptes à faire valoir, à se faire payer pour quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses gratuitement dans leur vie quand il s'agit de les faire payer, alors que ça apporte une vraie plus-value, se sentent complètement incapables de se faire payer pour ça.
Et ça vient d'où, ça ?
Ça dépend, je pense, aussi du contexte, de l'éducation, je pense, beaucoup par rapport à l'argent.
Oui.
Il y a beaucoup qui ont la vision que l'argent, c'est quelque chose qui amène du négatif. Que si tu t'attaches à l'argent, tu vas te détacher de ta vie spirituelle, par exemple, ou tu vas pas assez basculer dans le camp des méchants capitalistes.
Oui, oui. Entre guillemets. Ça revient souvent, hein, parce que je pose souvent la question et les réponses, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est hallucinant.
Et moi, c'est vrai que quand souvent il y a des complexes comme ça d'aller gagner de l'argent, d'aller faire de l'argent. Et qu'il y a ce « oui, non mais est-ce que ça va faire de moi une personne égoïste ?» Souvent, dans le fond, ça va être ça. C'est-à-dire, ça va faire de moi une personne qui est égoïste, centrée sur moi et centrée sur les choses matérielles.
Oui.
Ok, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu distribues 2 000 euros à des personnes qui sont en nécessité, est-ce que tu seras plus utile à ces personnes-là que quand toi, tu galères avec 2 000 euros et que tu peux faire beaucoup moins pour ces personnes ?
Donc, toi, c'est comme ça que tu amènes, en fait, le changement vers l'acceptation.
Bah, en fait, c'est de voir qu'il y a une utilité dans l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un instrument. C'est vrai que si tu fais rentrer l'argent dans ton cœur et que ça devient le centre de ta vie, ça va être terrible. Ça va être terrible, ça va faire des ravages sur ta personnalité. C'est pas un argument pour ne pas faire de l'argent, parce qu'avec de l'argent, tu peux faire du bien aussi. Ça peut être une très bonne énergie.
Exactement.
Pour faire de
l'argent. Oui.
Et si déjà t'es pas capable d'aider ta famille, après, bien sûr, on fait les causes, hein. Les résultats ne nous appartiennent pas, mais on fait les causes. Si toi, tu te situes dans cette optique où, tu es la personne qui est en besoin, etc., tout le temps, bah, ça te met quand même dans une mauvaise énergie par rapport à l'argent.
Exactement, et puis même, tu es toujours dépendant finalement. Il y a une phrase qui dit « si tu ne sais pas vendre, tu vas dépendre de quelqu'un qui sait le faire ».
Exactement.
Donc, au final, que ce soit toi qui vendes ou que ce soit l'entreprise pour laquelle tu travailles qui vend, le problème est juste déplacé.
Exactement, et j'allais te dire, en fait, je pense que c'est une histoire de responsabilité. Et oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de faire de l'argent.
Oui.
Et
oui, c'est
être
ça.
Pleinement responsable de cet acte-là qu'il délègue à un employeur. Et en contrepartie de cette délégation de responsabilité, bah, il va y avoir le prix du confort. Mais après, savoir que ton temps appartient à quelqu'un, voilà, c'est un autre concept aussi.
Oui, tout à fait.
Donc,
oui, c'est ça qui est bien en fait dans ce que tu dis. C'est que voir les conséquences de cette mauvaise relation à l'argent, concrètement ce que ça fait, ça peut remettre en question. Parce que si effectivement, sous prétexte que tu ne veux pas entendre parler d'argent, tu vends en gros ton temps à un employeur qui lui fait ce qu'il veut du coup de cet argent-là et de ton temps, au passage, eh bien, finalement, tu as déplacé le problème dans un espèce de déni pour ne pas avoir à le régler et que si tu regardais les choses en face, peut-être que tu verrais un raccourci qui pourrait t'amener quelque chose de beaucoup plus positive dans ta vie.
Bah oui, parce que ton employeur n'est pas moins bon que toi, ça se trouve, lui, il nourrit 100 personnes par mois et il n'est pas moins bon que toi en tant que personne.
Oui.
C'est juste qu'il a pris une responsabilité. Hein.
Oui, et alors toi, parce que là, c'est quand on s'occupe en fait des autres, c'est plus facile hein, de poser les mots sur les problématiques. Et est-ce que toi, tu as un rapport à l'argent que tu estimes sain?
Là aussi, je pense que ça a été un parcours. Oui, maintenant, oui. Ça, c'est, je me sens pas du tout complexée par rapport à ma relation à l'argent, pas du tout. Mais quand j'étais plus, quand j'étais dans ma vingtaine, etc., il y avait quelque chose où quelque part, je trouvais que c'était pas forcément quelque chose de noble de vouloir gagner de l'argent. Et plus jeune, j'étais moins à l'aise avec avec ces idées-là. Et c'est après que je me suis rendu compte que ma construction, elle était là-dessus, c'était faussé. Autant moi j'ai vécu dans un milieu qui était très aisé, mais autant les questions d'argent ne concernaient pas les enfants entre guillemets. Donc ce qui oui, fait que oui. Voilà, on se posait pas la question de l'argent. On ne nous a pas éduqués à l'argent entre guillemets, sauf nous apprendre la valeur du travail. Oui. Donc après ouais, j'ai été un petit peu ouais, j'ai l'impression que c'était pas très noble de vouloir beaucoup d'argent. Je trouvais que c'était pas classe. C'est vraiment. Moi, je pense que c'était idiot. Parce que voilà, ça nourrit des complexes qui sont absolument pas nécessaires, qui font perdre du temps. Et voilà, après, c'est pas le niveau de quantité d'argent ne détermine pas le niveau de qualité de la personne, ni dans un sens, oui, ni dans l'autre.
Oui, oui, tout à fait, ça, je suis d'accord. Comme d'ailleurs le tarif d'une prestation ou d'une formation ou d'un produit, c'est pas parce que... Effectivement, ça, c'est vraiment une idée reçue que j'ai cassée récemment, parce que pour moi, avant, argent égale qualité, enfin, ou prix élevé égale qualité. Et je me suis rendu compte, mais non, pas du tout, en fait. C'est pas du tout ça. C'est que c'est en fonction de ce que les gens sont capables de poser dans la perception qu'ils ont de ta propre valeur. Donc, c'est pas quelque chose de, comment dire, qui se calque, en fait.
Oui, et puis c'est pas automatique, c'est pas une équation de garantie, c'est sûr. Maintenant, je pense que il y a une démarche aussi beaucoup d'investissement personnel. Il y a des personnes, je pense qu'il y a beaucoup de ressources psychologiques ou autres qui sont gratuites, accessibles sur le net. Après, dans une configuration où c'est pas personnalisé, etc. Mais il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles. Et pourtant, beaucoup de gens ne s'en saisissent pas.
Alors pourquoi ? Je pense que...
Et je pense que les gens, des fois, ont besoin d'investir sur, oui, sur eux. Et c'est vrai qu'après, le tri, hein, sur, parce qu'il y a de tout sur le marché, donc faut...
Alors, ils ont besoin d'investir. Bon, des fois, c'est une question de temps, mais des fois, c'est aussi une question de « je veux dépenser pour me prouver que je suis capable d'investir sur moi et pour donner de la valeur à ce que je vais faire. » Alors que cette valeur, si tu l'avais eue gratuitement, tu ne l'aurais pas perçue. C'est quand même quelque chose d'assez psychologique, quand même, comme...
Ouais, parce qu'en fait, souvent les gens ils vont payer leur investissement de temps et d'énergie dedans. C'est-à-dire que s'ils payent quelque chose 10 euros, ils vont engager leur personnalité pour 10 euros dans ce projet-là.
Oui.
Et s'ils veulent engager leur personnalité, il y en a à hauteur de 10 000 euros, il y a des coachings à 10 000 euros. Ils savent qu'ils vont s'engager dans ce projet-là à hauteur de ce qu'ils ont dépensé, 10 000 euros. Eh ben, ça ne fait pas du tout la même configuration psychologique par rapport au coaching. Et les résultats seront très différents parce que ce sera l'effort d'investissement. Et c'est, comme je te dis, ce n'est pas avec l'argent. Il y a deux ressources qui sont importantes, c'est l'argent et le temps.
Oui.
Et quand les gens vont dépenser 10 000 euros, bah, tu vas voir qu'ils vont passer plus de temps sur ce projet-là et qu'ils vont s'investir émotionnellement, personnellement, professionnellement. Ils vont mettre toutes leurs ressources dedans. Mais il faut que ce soit 10 000 euros bien dépensés avec la bonne personne, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi et de s'engager.
Oui, ce n'est pas parce qu'une prestation fait 20 000 euros que ça y est, ça veut dire que c'est le top du top. Nour, tes trois conseils pour avoir un mental d'entrepreneur sain, selon toi, quels sont-ils ?
Alors, moi, je pense qu'il faut être... Premier conseil, il faut être très créatif.
Oui.
C'est-à-dire que face à l'adversité, parce que de l'adversité, il y en aura nécessairement, faut savoir être créatif et il faut savoir trouver d'autres manières de penser, changer d'angle. D'accord. Sans changer d'objectif. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est rester focus. C'est-à-dire qu'il faut être capable de changer d'angle sans changer d'objectif. Et ça, être focus, c'est vraiment très, 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 très important. Parce que, voilà, c'est ce qui va faire que tu vas être pragmatique, que tu vas aller à l'essentiel, que tu vas pas te perdre dans les détails, que tu vas pas jouer au perfectionniste pour t'empêcher d'avancer, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est important. Il faut être endurant.
Alors, endurant, c'est quoi exactement ?
Endurant, c'est-à-dire que déjà, un, il faut supporter la possibilité de l'adversité.
Oui.
Et de garder son cap, même dans l'adversité.
Oui.
Et l'adversité, elle va venir de différentes manières. C'est, selon certaines personnes, c'est que il va y avoir à un moment, peut-être que la personne, elle aura moins de temps à consacrer à son projet. Je pense beaucoup aux femmes, par exemple, qui, oui. Parce qu'elles sont mères aussi, très souvent, pour certaines d'entre elles qui sont mères aussi, eh bien, il y a un moment où elles vont devoir gérer leur temps de façon différente. Et elles vont pas pouvoir avoir le même focus qu'une personne qui n'a qu'à œuvrer à sa réussite entrepreneuriale. Donc, il va y avoir de l'adversité dans la gestion du temps, dans la gestion des ressources. Mais voilà, faut garder le cap avec optimisme. Et cet espoir-là, pour revenir à la notion d'espoir, comme tu disais au début, cet espoir-là est parfois difficile.
Oui.
Cet espoir-là.
C'est-à-dire est le résultat, difficile. Effectivement, oui, le résultat est parfois difficile à atteindre parce qu'il faut résister, comme tu dis, à toute cette adversité qui peut se traduire par des erreurs, des échecs, des déceptions, etc. Donc oui, effectivement.
Oui,
et quand on est maman, effectivement, on est sur plusieurs tableaux en même temps.
Ouais.
On est responsable de... Alors, je dirais comme les papas aussi, mais les mamans...
C'est pas pareil, souvent.
Non, c'est pas pareil.
Ouais, oui, voilà. Mais pragmatiquement parlant...
Voilà, d'un point de vue pragmatique, les mamans sont plus quand même sur le terrain de leurs enfants, je
ah,
dirais.
Oui, bien sûr.
Et plus concernées. C'est d'ailleurs elles qui entreprennent de devenir entrepreneurs. Pour pouvoir gérer tout ça. Et au bout d'un moment, je pense qu'on acquiert un certain confort dans l'inconfort. On s'y fait, quoi. On se laisse porter par cet inconfort. Il faut
essayer de trouver, je pense, pour les femmes, pour les mamans, pour les femmes qui sont mères et qui entreprennent, je pense que c'est vraiment essayer de trouver les routines qui sont positives tout en sachant qu'elles pourront être bousculées parce qu'il y a un enfant malade, sans se laisser décourager, Oui. Ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je disais l'endurance, parce que moi, j'ai traversé ça aussi, hein. Tu planifies une journée pour travailler, puis hop, ton enfant tombe malade, donc la seule journée ou les deux seules journées que tu consacres à ton projet à ce moment-là, et ben tu ne peux pas parce que évidemment que tu vas pas laisser ton enfant tout seul malade, voilà. Donc ça c'est vraiment c'est quelque chose avec lequel il faut faire. Mais voilà, faut garder espoir, faut pas tomber dans les travers négatifs, dans les ruminations. Et moi je sais, il y a une phrase qui m'a énormément aidée, il y a une personne qui m'avait dit c'est dans le noir qu'il y a l'espoir.
Oui.
Parce qu'on croit souvent que l'espoir c'est une lumière au fond du tunnel.
Oui.
Et que ben des fois il arrive que dans la vie, même quand tu entreprends, etc., il y a pas de lumière.
Oui,
il y a plusieurs choses qui se cumulent. Des fois, les personnes, elles se lancent dans l'entrepreneuriat aussi parce qu'elles ne trouvent pas d'emploi à côté, parce qu'il y a des difficultés économiques, parce que pour tout un tas de raisons. Donc, des fois, la situation, elle est difficile. Des fois, les personnes sont précaires.
Oui.
Et il faut, à ce moment-là, quand elles essayent de se mettre en route sur un projet entrepreneurial, voilà, se dire que même si c'est pas parce qu'on est dans le noir, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, c'est là qu'il y a le vrai espoir. C'est quand on est dans le noir qu'il y a l'espoir. Le vrai espoir, c'est quand il n'y a plus de raison d'espérer.
On reste sur cette super maxime. Merci beaucoup, Nour, pour ton partage d'expérience qui était très intéressant. C'est une vision très pragmatique et on sent qu'il y a une maturité en fait, entrepreneuriale derrière tout ton discours et à travers nos échanges. Si on veut entrer en contact avec toi, Nour, où est-ce qu'on peut te joindre ?
Alors, le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn. LinkedIn ou LinkedIn, il y a plusieurs options de prononciation. Donc le plus simple, ça va être de me contacter directement sur LinkedIn ou sur Facebook où je suis active et je suis réactive aux messages.
Ben, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse entrer en contact avec toi. Merci beaucoup, Nour.
Merci beaucoup.
Je te souhaite plein de réussite dans ta vie personnelle et professionnelle.
À toi également.
N'oublie pas, prends soin de ton mental. Merci beaucoup.
À toi également. Merci beaucoup.
Le leadership, c'est une compétence qui, aujourd'hui, est de plus en plus rare, même si les pseudo-leaders autoproclamés remplissent la scène. Pour moi, on ne se définit pas soi-même leader. On l'est de fait, que ce soit une compétence naturelle ou travaillée. Et surtout, ce sont les gens qui travaillent avec vous qui reconnaissent cette qualité, cette compétence en vous. Je sais que c'est une position tranchée, mais j'assume parfaitement. Nour a donné une information capitale qui permet de reconnaître un vrai leader. Le leader se connaît très bien, sait où il va et de ce fait, il est capable d'emmener son équipe et ses clients vers une vision commune. Le leader est donc très souvent en introspection pour faire le point avec lui-même et avec ses ambitions. Il connaît ses équipes et tel un chef d'orchestre, il est capable de raccorder les talents pour un résultat topissime. Pour approfondir ce sujet, je vous conseille la lecture du livre de Simon Sinek, « Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier ?». Il donne sa version du leadership loin des clichés qu'on peut avoir sur ce sujet. Au fil de mes interviews, j'ai remarqué que les entrepreneurs qui avaient un rapport sain à l'ambition dans leur enfance développaient plus rapidement leur business parce qu'ils ont moins d'obstacles psychologiques à franchir dans leur aventure entrepreneuriale. C'est le cas de Nour, mais c'est aussi le cas pour certains entrepreneurs que j'ai interviewés et dont les épisodes vont bientôt être diffusés. Restez à l'écoute. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes outils au démarrage. Certains iront vite parce que leur environnement leur aura permis de disposer de toutes les compétences psychologiques pour y aller en confiance. Certains disposent de qualités naturelles, le fameux débat inné-acquis, et d'autres devront au fur et à mesure régler les problèmes posés par les différents obstacles. Les parcours seront différents, mais ce qui fait la différence, c'est votre capacité à être résiliente. Nour a parlé de l'intérêt de se faire coacher pour avancer vers ses objectifs professionnels. Je suis assez d'accord avec elle sur la valeur de l'investissement sur un programme de transformation qui serait proportionnel au montant investi. Effectivement, un client qui investit de l'argent déploiera plus d'énergie dans son programme qu'une personne qui bénéficie d'un coaching gratuit. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point important et ça sera mon conseil du jour. Certaines personnes ont besoin de s'imposer une contrainte extérieure forte pour s'investir dans un projet. Par exemple, si vous dépensez 2000 euros et que vous avez conscience de la valeur de cette somme, cet investissement peut devenir rentable à la seule condition que cette motivation extérieure se transforme en motivation intérieure. Certains coachs vont vous amener des solutions extrêmement performantes, ne les négligez pas. Si ce coaching est l'aide dont vous avez besoin pour avancer, pour X ou Y raison, allez-y, vous aurez un retour sur investissement. Et bien évidemment, choisissez bien votre coach sans tomber dans le piège du marketing. Par contre, si vous êtes du genre acheteuse compulsive, c'est-à-dire que vous achetez plein de formations, des coachings, des produits en espérant que ça va vous donner envie d'y aller, vous allez perdre beaucoup d'argent sans avancer. La question à se poser à ce moment-là, c'est de savoir si vous êtes vraiment à votre place dans ce projet entrepreneurial. Qu'est-ce que vous souhaitez comme changement ? Et qu'est-ce que vous êtes prête à investir comme temps, comme énergie dans votre vie pour arriver à cet objectif et pourquoi vous faites tout ça? Il n'est pas rare de prendre un coaching pour se poser ces questions. Mais attention à ne pas vous ruiner dans l'achat compulsif de solutions externes alors que le problème est essentiellement interne. Voilà pour mon analyse du jour. J'espère que ce sujet vous aura aidé à avancer. Ma voix est quelque peu cassée aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir à faire cet épisode. On se retrouve au prochain épisode de Vocation Entrepreneur pour aborder des sujets encore plus passionnants. Si vous aimez mon contenu, allez vite me donner votre avis par mail sur hello@vocationentrepreneur.com ou un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de votre entourage. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.